France Info. Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Des sondages en berne, des couacs en série ces dernières semaines. Qu'est-ce qui cloche dans la campagne de Nathalie Loiseau ?
La campagne de Nathalie Loiseau, elle a commencé, mais elle démarre vraiment maintenant. La campagne des européennes, elle démarre toujours assez tard par rapport à la date des élections. Là, on est à 3 semaines des élections. Hier, La République En Marche tenait 8 meetings dans 8 villes de France. Moi, j'étais à Bobino avec les écologistes de la liste, notamment Pascal Canfin, et puis aussi un grand témoin, Daniel Cohen-Bendit. Nathalie était à Caen avec le Premier ministre. Elle est appréciée des militants, elle est soutenue, elle est compétente, et moi, j'ai confiance.
Il n'y a pas de problème de casting avec celle que vous appelez donc par son prénom, Nathalie.
Nathalie Loiseau, elle a été ministre des Affaires européennes pendant 2 ans. Elle connaît très bien ses dossiers. Elle est extrêmement engagée dans la construction européenne et pas n'importe quelle construction européenne. Moi, je suis assez frappée du concert, enfin de la quantité d'insultes qu'elle reçoit, etc. Je trouve qu'il y a aussi une part de sexisme là-dedans. Je me pose la question de savoir si un homme...
Il
n'y
a pas une once
homme...
de sexisme dans ma question. Je pourrais poser la même question sur tous les candidats.
Non, mais je ne dis pas pour
quand
vous.
Ils sont à la baisse, quand le Rassemblement national vous talonne, vous dépasse désormais, et quand elle ne reconstitue pas le socle électoral qui était celui du candidat Macron il y a 2 ans.
Je ne dis pas du tout pour vous, mais je trouve que dans ceux qui tournent sur les réseaux sociaux sur Nathalie Loiseau, il y a aussi des choses qui sont complètement déplacées. On est dans une campagne dans laquelle le parti du président de la majorité fait campagne pour son programme et donc tous les autres sont opposés, donc on est un peu à tous contre un. C'est la logique de cette campagne, mais moi j'ai vraiment confiance, la discussion avec les militants, la force du projet, la force de la liste, j'y crois.
Et c'était important, Emmanuel Wargon, que Édouard Philippe, justement le Premier ministre, se mobilise hier aux côtés de Nathalie Loiseau.
Je crois que c'est important que toute la majorité montre qu'elle est mobilisée pour le projet européen. Cette élection européenne, en fait, elle est déterminante. Bien sûr, ce sera un test national, et on le sait. Mais c'est aussi l'Europe que nous voulons construire, c'est la majorité que nous pourrons obtenir au Parlement européen, c'est la possibilité pour la France de déployer son action en Europe et d'obtenir des majorités. Donc en fait, cette élection, elle est clé aussi pour le projet que nous menons en France.
Mais ce sera aussi un test national, vous voulez le dire. Ce sera une façon de tester la popularité du gouvernement au bout de 2 ans d'exercice du pouvoir ?
On sait que des élections sont toujours à la fois sur leur enjeu, et là c'est une élection européenne très importante, et qu'elles ont aussi une valeur nationale. C'est un constat. Et ça me paraît important aussi de montrer la force de notre projet, à la fois communautaire et français.
Emmanuel Wargon, Nathalie Loiseau était donc hier soir en meeting à Caen, en Normandie. Voici ce qu'elle a déclaré.
Nous sommes à Caen, et ça ressemble un petit peu à un débarquement allié. Dans 20 jours, ce sera notre D-Day, notre jour J.
Un débarquement contre qui aujourd'hui? Quel est l'ennemi aujourd'hui qui occupe la France?
Je crois que c'était plutôt l'idée de dire beaucoup de la liste arrive, le Premier ministre arrive, des hommes politiques nationaux arrivent. C'était plutôt l'idée d'un rassemblement que d'un débarquement. Après, le moment est important. Le moment, le 26 mai, et moi j'engage vraiment les auditeurs à aller voter. Le premier problème que nous allons avoir, c'est le taux de participation. On sait que la participation est toujours faible pour les élections européennes. Les élections européennes, ce sont des élections importantes. Donc le message, c'est mobilisez-vous et choisissez ceux dont vous croyez le projet. Et nous portons, je crois, le plus beau projet.
Et est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron, lui aussi, entre en campagne ?
Il est arrivé que des présidents de la République...
Long silence.
Il est arrivé que des présidents de la République rentrent en campagne européenne. Je crois que ce sera son choix. En tout cas,
le
Premier ministre, le gouvernement, on est tous mobilisés.
Vous le souhaitez ? Ce serait utile ?
C'est toujours bien quand tout le monde se mobilise, mais je crois que la question, elle est aussi la mobilisation de terrain, la mobilisation au plus près.
Vous évoquiez la dimension aussi du test national de ce scrutin. Qu'est-ce que ça changerait si le Rassemblement national arrive en tête, si Jordan Bardella devance Nathalie Loiseau? C'est une catastrophe pour le gouvernement?
D'abord, moi, je n'y crois pas. Je crois qu'on a une belle dynamique et que la campagne démarre maintenant.
Quelle dynamique vous avez vue? Je
regarde
qui démarre
la dynamique
à 25 et qui est aux alentours de 21 aujourd'hui, ou alors j'ai mal lu les
je regarde
sondages,
mais où est la dynamique des militants, je regarde la dynamique des meetings, je regarde
vous
la multiplication
un effet
des événements. Donc je sens un effet liste renaissance, parce que on a une très belle tête de liste, on a aussi une très belle liste. Parce que toute cette liste, c'est Nathalie Loiseau, mais c'est aussi Pascal Canfin, c'est Catherine Chabot, la navigatrice, c'est Jérémy Deserle, l'agriculteur. Donc on a une belle liste. Et moi, je crois que la dynamique qui démarre maintenant, elle fonctionnera. Après, le Rassemblement national porte quelque chose qui n'est pas un projet européen. Donc, bien sûr, on a envie d'être en tête.
Et ça serait un problème pour l'action du gouvernement dans les deux années qui viennent, si c'était pas, enfin dans les trois années qui viennent, si le Nathalie Loiseau n'est pas en tête. Ça, est-ce que ça obérerait la capacité de réforme du gouvernement à vos yeux?
Je crois que la capacité de réforme du gouvernement, elle est assez solide. Je crois aussi qu'on vient de sortir de trois mois de grands débats dans lesquels on a renoué avec la possibilité de discuter avec les Français, à la suite desquels le président
de
la République...
mais pas encore de décider.
Le président de la République a posé une feuille de route pour la deuxième partie du quinquennat. Je pense que cette feuille de route est solide et que nous serons en capacité de la mener. Après, toutes les élections sont importantes parce que l'expression démocratique est importante.
Est-ce que la deuxième partie du quinquennat, Emmanuel Wargon, sera plus verte que la première ?
Je crois que l'écologie est en train de s'installer vraiment.
Ça y est, Emmanuel
au
Macron
cœur
a compris.
Du programme gouvernemental.
Oui.
Parce
enfin.
Que
enfin.
Ben, si je regarde tout ce qui se passe actuellement, on a annoncé la création d'un conseil de défense écologique. C'est pas du tout un organisme de plus. C'est le président qui réunit ses principaux ministres régulièrement, le premier est en mai, et dit bon, l'écologie, ça n'est pas que le problème du ministre de la Transition écologique et solidaire, François Drugy et son équipe. L'écologie, c'est le problème, ou la solution d'ailleurs, parce que c'est souvent une solution de tout le gouvernement. Première réunion consacrée à la biodiversité. Le président de la République reçoit hier, j'y étais, les scientifiques sur la biodiversité, pour dire oui, c'est un problème aussi important que le réchauffement climatique et nous allons agir. Le Premier ministre recevait hier les organisations syndicales, patronales, des associations d'élus sur les 5 chantiers concrets qu'il ouvre. 2 concernent l'écologie, 1 sur l'écologie du quotidien et l'autre sur la contractualisation avec les territoires pour un nouveau développement économique, pour un renouveau industriel et écologique. Et quand on parle du pacte productif en 2025, on dit ce pacte productif, produire mieux, produire plus, un facteur clé, un sujet transversal, l'écologie. Oui, je crois que l'écologie, on y est.
On va revenir longuement sur les propositions faites hier soir par le chef de l'État face aux experts mondiaux mandatés par l'ONU sur la biodiversité. Ce sera juste après le rappel de l'actualité, puisqu'il est 9h20 sur France Info. Voici Édouard Marguier pour l'info.
Après le dernier testing de SOS Racisme qui montre une discrimination dans l'accès au logement, le président de l'association demande sur France Info au pouvoir public d'agir d'urgence. Les personnes qui ont un patronyme maghrébin ont moins de chances de louer un logement que les autres. Emmanuel Macron promet une série d'actions sur la biodiversité après le rapport de l'ONU alarmant sur la question. Il veut par exemple lutter contre le gaspillage et augmenter le nombre d'espèces protégées. Le président s'engage par ailleurs à poursuivre la discussion à l'échelle européenne. Les cas de tuberculose augmentent en Île-de-France, hausse de près de 10% entre 2015 et 2017 selon Santé publique France. Les populations concernées sont celles qui souffrent de la précarité et de la promiscuité. L'allocation adulte handicapé va à nouveau augmenter 40 euros de plus à partir du 1er novembre. La secrétaire d'État en charge du sujet le confirme dans Le Parisien ce matin. Cette allocation versée à plus d'un million de personnes avait déjà été revalorisée de 50 euros en novembre dernier. C'est officiel au 15 de France de rugby. Fabien Galthié sera l'adjoint de Jacques Brunel jusqu'au Mondial au Japon en septembre. L'ancien joueur deviendra ensuite le sélectionneur des Bleus.
France Info. Toujours avec la secrétaire auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuel Wargon, et les questions de Renaud Dely.
C'est tenu donc hier à l'Élysée une réunion à laquelle vous avez participé autour de ce rapport mondial sur la biodiversité et son constat alarmant. Emmanuel Macron, au sortir de cette réunion, s'est exprimé dans la cour de l'Élysée.
Ce qui nous est proposé, en quelque sorte, l'interpellation qui nous est faite par les experts qui viennent de remettre leur rapport, c'est très profondément de changer notre organisation mondiale. C'est de changer notre manière de produire, de nous organiser. Et le réchauffement climatique, comme la biodiversité, impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués.
Donc cette fois, ça y est, on va tout changer. On se souvient qu'il y a 2 ans, Emmanuel Macron avait déclaré le fameux « Make our planet great again » au moment où Donald Trump annonçait qu'il allait sortir de l'accord de Paris.
Mais
c'est un peu la même chose, hein ?
Oui, c'est la même chose.
C'est la même chose, mais depuis 2 ans,
cette fois,
il a changé.
On va le faire, ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on travaillait de façon assez séparée sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique, donc tous les sujets climat, et les sujets biodiversité étaient finalement assez peu visibles. Et finalement, avec ce rapport d'experts que la France a suscité, hein, parce que c'est la France qui a contribué à créer cette coalition d'experts, la France a accueilli les travaux cette année, et ce rapport a été présenté au G7, au ministre de l'Environnement du G7, à Metz, dimanche et lundi. Donc avec ce rapport d'experts, on a la base pour travailler. Et ces experts nous nous dise d'abord climat et biodiversité, finalement les deux sujets sont liés. Ça ramène souvent à la question des terres et de l'agriculture. Et deuxièmement, il faut un changement de système. C'est simplement difficile à faire, un changement de système. Changement de système de production, changement de système économique.
Ça veut dire quoi,
produire différemment.
Changement de système de production, ça veut dire quoi? On va sortir du capitalisme?
Non, ça ne veut pas dire on va sortir du capitalisme. D'ailleurs, ces experts font des scénarios. Et dans un des scénarios, qui est le scénario le plus optimiste dans lequel on arrive à regagner de la biodiversité, on garde de la croissance économique. Simplement, c'est une croissance économique qui est avec des fondamentaux plus solides. Une agriculture différente, une agriculture qui est moins intensive, qui exploite moins les sols.
Vous allez demander aux agriculteurs de faire moins de rendement.
On en a beaucoup parlé hier, c'était intéressant, c'était une discussion assez ouverte.
Le rapport du GIEC Biodiversité dit l'agriculture c'est la première cause de perte de biodiversité sur la planète. On peut aujourd'hui, quand on est responsable politique, aller voir ces agriculteurs et dire « je vous demande de lever le pied, de produire moins, quitte à gagner moins d'argent ».
Alors le rapport dit c'est l'exploitation des terres, d'abord, qui est la première cause, mais l'exploitation des terres, c'est l'agriculture, mais c'est aussi l'étalement urbain, c'est aussi la manière dont la ville est organisée, donc c'est un peu plus large que l'agriculture. Mais la discussion qu'on avait hier avec les experts, c'est qu'il est possible de garder les mêmes rendements agricoles avec des méthodes de production différentes. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans un dilemme, est-ce qu'il faut produire moins en produisant mieux, ou est-ce qu'on continue à produire autant parce qu'on a aussi la planète à nourrir. Il existe maintenant des solutions techniques pour produire mieux en gardant le même type de rendement. On a discuté des céréales, on a discuté de produits laitiers par exemple. On a discuté de beaucoup de secteurs agricoles dans lesquels on sait qu'on peut produire avec des rendements comparables en produisant mieux. Et c'était l'un des éléments de la discussion. Comment est-ce qu'on trouve les bons exemples? Comment est-ce qu'on permet aux agriculteurs d'aller vers ce type de modèle? Pour la France, d'abord, c'est un des objectifs de politique publique que nous nous sommes donnés. Didier Guillaume travaille, bien sûr, sur ce sujet. Et deuxièmement, le gros enjeu, c'est pour ça que ça rejoint le sujet européen, c'est la réforme de la politique agricole commune. Parce que la politique agricole commune, elle subventionne des modes de production. Et si on arrive à faire évoluer le financement pour favoriser des modes de production plus respectueux de la planète, mais avec les bons rendements, alors on peut aller vers cette transition d'une agriculture plus respectueuse.
Comment garantir en même temps le revenu des agriculteurs?
Je vais vous donner un exemple très concret. Actuellement, on travaille sur la préservation de l'eau avec un mécanisme de concertation qui s'appelle les assises de l'eau. Dans cette concertation, on travaille sur comment utiliser au mieux une enveloppe de 150 millions d'euros qui est aujourd'hui répartie entre les agences de l'eau et qui va financer ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Désolé si c'est un peu précis, mais en gros, 150 millions d'euros pour financer l'action des agriculteurs lorsque ce qu'ils font est directement bénéfique à la biodiversité ou d'ailleurs au réchauffement climatique. Et on est en train de regarder avec les agriculteurs et les associations environnementales comment est-ce qu'on organise ça, comment est-ce qu'on le dessine pour que ces paiements soient le plus efficaces possible. Demain, la PAC elle-même, là c'est de l'argent purement français, demain l'argent communautaire pourrait financer ce type de programme, ce type de service à un niveau beaucoup plus élevé que 150 millions d'euros par an.
Mais aujourd'hui la réforme de la PAC, elle inquiète les agriculteurs, notamment parce qu'ils redoutent de voir leurs revenus diminuer. C'est pas une enveloppe, en l'occurrence celle que vous évoquez au sujet de la répartition de l'eau, qui va leur permettre de sauvegarder leurs revenus. Vous savez qu'aujourd'hui c'est leur première préoccupation.
Alors, l'une des questions posées par la réforme de la PAC, c'est d'abord le budget global de la PAC, ne serait-ce que parce que le Royaume-Uni sortira peut-être de l'Union européenne.
Budget qui va être réduit.
Et donc, en fonction de ça, le budget sera peut-être réduit. Mais vous le savez, la France plaide pour un maintien du budget de la PAC. La France est l'un des acteurs principaux et extrêmement déterminé pour que la politique agricole commune puisse continuer à soutenir nos agriculteurs. C'est indispensable.
Emmanuel Margon, il y a aussi les symboles parfois en écologie. Je voudrais qu'on évoque celui de la Montagne d'Or, cet immense projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane, au cœur de la forêt. Emmanuel Macron a dit, ou plutôt a redit hier soir, qu'il avait des doutes sur la viabilité écologique de ce projet. Est-ce qu'il se fera, oui ou non, pendant ce quinquennat?
Moi, je crois que ce type de projets sont des projets du passé et que ce type de projet n'aura pas lieu. Ça n'a aucun sens d'aller exploiter à ciel ouvert au milieu de la forêt amazonienne pour créer quelques dizaines d'emplois. Bien sûr, il faut développer le territoire de la Guyane, développement économique. Mais on peut trouver des pistes de développement économique qui valorisent la nature. Le président a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour que ce projet se fasse. Moi, je ne vois pas ce projet se faire.
Parmi les niches fiscales qui pourraient être supprimées pour financer les baisses d'impôts, les niches fiscales qui bénéficient aux entreprises, il y a celles qui concernent le gazole non routier. Le gouvernement pourrait envisager de revenir sur cette niche fiscale. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de cet avantage qui bénéficie notamment aux transporteurs ?
C'est celui qui permet aux engins de chantier notamment de rouler.
Dans le débat sur la taxe carbone et dans le grand débat, on a eu beaucoup de discussions avec les Français sur qui doit faire des efforts. Est-ce que ce sont les Français eux-mêmes qui doivent faire des efforts à la pompe? Et comment est-ce qu'on fait pour faire que les efforts soient correctement répartis? Il y a la question du gazole non routier pour les entreprises, en particulier du bâtiment. Il y a aussi la question du kérosène. Il y a la question des bateaux. Donc pour le kérosène, je vais répondre au gazole non routier.
Mais sur la suppression de cette niche sur le gazole non routier.
On porte, avec la liste Renaissance, une demande de taxation au plan communautaire. Pour le gazole non routier, ça me paraîtrait normal que ce gazole soit de moins en moins exonéré. Ça avait été prévu sans période de transition dans la période précédente, parce que ça avait été voté dans la loi de finances précédente.
Et ça avait été immédiatement retiré dès lors que le secteur du bâtiment avait commencé à manifester.
Parce qu'il n'y avait aucune période de transition. Et ça n'est pas possible de passer brutalement d'une exonération à une taxation complète. Mais si une période de transition est mise en place, moi ça me paraît logique.
De quel ordre cette période de transition ?
Ça sera à discuter avec les professionnels du secteur, il faut le faire avec eux. Mais en tout cas, en orientation, ça me paraît logique qu'on ne garde pas une exonération fiscale.
Qui tranche cette question désormais, Emmanuel Vargon, je vous ai appelé Macron. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Bercy, ou est-ce que c'est désormais l'Élysée qui s'est emparé de ces questions ?
Mais ces sujets, ils sont interministériels. Le budget, il est bien sûr fait avec Bercy.
Les niches fiscales, normalement, c'est Bercy.
Et Bercy le fera avec les différents ministères, d'autant plus que c'était un peu rapide dans la période précédente et qu'on n'a pas été capable de le mettre en place. Donc on voit bien qu'il faut qu'on le travaille ensemble entre le ministère des Transports et de la Transition écologique et Bercy. Ça se fera forcément ensemble.
Jusqu'à présent, ça ne marchait pas très bien, la coopération interministérielle, vous écoutez ?
Mais c'est normal, chaque département ministériel a son point de vue et après c'est Matignon qui fait les arbitrages sous l'égide du président de la République. Là sur l'écologie, on dit c'est tellement important, c'est tellement urgent que le président de la République donnera les grandes orientations, sujet par sujet. On a parlé de la biodiversité, on peut aussi parler des subventions. Il a dit hier qu'il fallait lancer une revue des différentes subventions, tous secteurs confondus, pour vérifier que lorsque nous subventionnons l'économie, on ne le fait pas contre le climat ou contre la biodiversité. Ça aussi, c'est très nouveau et c'est très puissant.
Emmanuel Vargon, vous restez avec nous, on s'interrompt une minute pour jeter un œil et une oreille au titre de l'actualité à 9h10 avec Édouard Marguier sur France Info.
Pour Emmanuel Macron, le projet Montagne d'Or en Guyane n'est pas compatible avec des ambitions écologiques. Il s'agit d'un projet d'exploitation d'une mine à ciel ouvert. Il en a mis du temps à réagir sur France Info, le représentant des jeunesses autochtones opposant historique à ce projet. Les personnes avec un patronyme maghrébin victimes d'une discrimination au logement, SOS Racisme a lancé une campagne de testing. Ils ont moins de chances que les autres pour décrocher une location, que ce soit sur des annonces sur internet ou que dans des agences immobilières. Deux journalistes graciés en Birmanie, ils travaillent pour l'agence Reuters et avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir fait des reportages sur le massacre des Rohingyas. Ils sont sortis de détention ce matin après avoir passé 500 jours derrière les barreaux. Une qualification pour la finale de la Ligue des champions de football est en jeu. Demi-finale retour ce soir. Le FC Barcelone reçoit Liverpool à 21h. Les Espagnols ont gagné 3-0 au match aller.
Toujours avec Emmanuel Vargon, secrétaire auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Renaud Dely.
Vous évoquiez, Emmanuel Vargon, la nécessité de changer nos modes de production, notamment la production agricole. On sait que le gouvernement a tracé la perspective de sortie des pesticides, de l'usage des pesticides à terme. La candidate Nathalie Loiseau, elle prône une division par deux des pesticides à l'horizon 2025. Mais il y a un mois, elle était notre invitée ici même à votre place. Et elle désapprouvait une récente décision de la majorité approuvée par le gouvernement, qui est de repousser justement jusqu'à 2025, la production, le stockage et la vente de pesticides qui sont interdits en Europe et qui sont destinés à des pays tiers. On écoute Nathalie Loiseau.
Je suis mal à l'aise avec cette réintroduction. Je vous le dis très clairement, je suis plus au gouvernement. J'ai une liberté de parole. Je suis mal à l'aise avec cette réintroduction. Ce que nous proposons, c'est déjà de diviser l'utilisation des pesticides en Europe par deux d'ici 2025. Pourquoi pas plus vite ? Tout simplement parce que moi, je ne veux pas laisser les agriculteurs de côté. Je ne veux pas les laisser sans solution.
Donc maintenant qu'elle a retrouvé sa liberté de parole, elle est mal à l'aise avec cette décision gouvernementale. Et vous, qui êtes ministre ?
En fait, la question qui nous est posée à chaque fois, c'est quelle est la bonne durée de la transition ? Parce que la direction, elle est claire. On arrête non seulement d'utiliser des pesticides en France et j'espère bien en Europe, en tout cas on réduit l'utilisation, et on est cohérent, on arrête de produire en France des pesticides pour l'exportation.
Sauf que cette décision qui est intégrée à la loi Pacte, elle a réintroduit pour 3 ans la production de ces pesticides destinés à l'exportation.
C'est là où je voulais en venir. La question, c'est quelle est la bonne durée ? La loi pour les états généraux de l'alimentation avait dit on arrête dès 2022. On a un problème de transition industrielle, c'est-à-dire que les entreprises concernées ont besoin d'un peu plus de temps pour reconvertir les sites industriels, pour aller vers des produits qui sont des produits autorisés dans l'Union européenne et qui sont des produits de nouvelle génération. Après discussion avec le secteur économique, nous avons décidé de leur laisser jusqu'à 2025 pour des produits qui sont autorisés en dehors de l'Europe. C'est vraiment une question de curseur de savoir s'il est plus important d'aller plus vite ou plus important de laisser la transition s'opérer. Encore une fois, on change de modèle et changer de modèle, c'est long et difficile.
C'est pas un bon signe, y compris au regard justement de ce rapport sur la biodiversité qu'on évoquait en début de l'entretien.
Ça aurait probablement été mieux d'être capable d'aller plus vite. 2025, c'est peut-être un peu loin. Peut-être que 2022, c'était mieux. En tout cas, ce qui est important, je crois, c'est la direction que nous prenons. La direction que nous prenons, et ça, personne ne nous obligeait à le faire, c'est d'interdire la production en France de produits qui sont désormais interdits à l'usage en France ou dans l'Union européenne. Et ça, c'est cohérent. Et on est d'ailleurs les seuls à le faire.
Emmanuel Wargon, il y a une autre question qui intéresse tous les Français, c'est celle du recyclage du plastique. Emmanuel Macron a promis hier soir que d'ici 2025, décidément il va s'en passer des choses en 2025, tous les plastiques en France seront recyclés. Les derniers chiffres que j'ai pu trouver remontent à 2016, vous en avez peut-être des plus récents. En 2016, 26% seulement des plastiques étaient recyclés en France. Comment on passe en moins de 10 ans, en même beaucoup moins que ça, à 100%?
Là, on a une vraie grosse mobilisation de tout le monde à faire parce que c'est vraiment quelque chose d'atteignable. Dans les pays nordiques, le taux de recyclage des plastiques doit être autour de 70 à 80%. Donc, c'est possible. Et d'ailleurs, en France, il y a énormément de variations sur le territoire. Il y a des endroits qui arrivent à 70 ou 75% et des endroits qui sont à 10%.
On parle de particuliers poubelles jaunes, poubelles vertes ou c'est...
En fait, on parle de tout. On parle du plastique industriel et donc du rôle des producteurs. On parle du comportement de chaque consommateur, donc le tri chez soi dans les poubelles jaunes ou vertes.
Ça veut dire que ça passera par exemple par des PV, pour ceux qui ne respectent pas ça, par des amendes, il va falloir passer à un cran plus coercitif.
Non, mais on n'a pas du tout besoin d'aller à des amendes ou un cran plus coercitif.
On est à 26%. Oui.
On a aussi besoin de développer l'offre de tri. Par exemple, pour l'instant, il y a très peu de tri sur la voie publique. Donc, quand vous avez une bouteille d'eau ou autre chose en plastique et que vous voulez le jeter, que vous n'êtes juste pas chez vous, il n'y a pas de possibilité ou peu de possibilité de tri. Enfin, ça dépend des villes. Certaines se sont déjà engagées, d'autres pas. Après, on peut aller jusqu'à des systèmes plus forts, type consigne. Et le gouvernement y pense, c'est ma collègue Brune Poirson qui travaille sur ce sujet.
Pour les produits en plastique.
Consigne pour les bouteilles en plastique, par exemple, en disant, finalement, ces bouteilles, elles ont de la valeur. Ce plastique peut être recyclable, il peut rentrer dans une nouvelle production. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mettre du nouveau plastique sur le marché. Et pour ça, finalement, la consigne, c'est plutôt un mécanisme incitatif. Si vous remettez votre bouteille là où vous devez la consigner, dans ce cas-là, vous récupérez un peu d'argent qui vous permet de racheter autre chose. Donc, on est plutôt dans ce type de mécanisme. Mais les gens sont disposés à le faire. C'est plutôt un système d'infrastructure et d'offres. Et c'est aussi la responsabilité des producteurs que de mettre plus de plastique recyclé dans leurs produits.
Ce mécanisme, Emmanuel Wargon, cette création de consignes, il est à l'étude en ce moment ?
C'est un sujet qui est envisagé, qui est discuté avec les industriels. La décision n'est pas prise, mais c'est une option.
À quelle échéance ?
Brune Poirson, qui proposera sa feuille de route sur l'économie circulaire dans les prochaines semaines, on va vers une loi qui sera présentée à l'Assemblée cette année.
Dans le cadre de son projet de campagne, enfin son programme de campagne, Nathalie Loiseau pourrait proposer la fin des voitures à essence et des voitures diesel d'ici à 2040. Est-ce que c'est une échéance qui vous semble atteignable ?
Alors d'abord, c'était une proposition de Nicolas Hulot et c'est dans l'un des plans français de se donner comme objectif d'arrêter la commercialisation en France de voitures essence ou diesel en 2040. Et ça n'est pas un sujet qu'on peut porter uniquement à l'échelle française, c'est très important de le porter à l'échelle communautaire. Donc c'est loin, 2040, et c'est la même question de la transition. Là, on a une énorme filière industrielle. Cette filière industrielle, il faut qu'elle arrive à transformer ses véhicules.
Est-ce que mais c'est si l'objectif également du gouvernement, Emmanuel Wargon, plus de voitures à essence ou diesel en 2040 ? Est-ce que c'est désormais l'objectif que vous fixez ?
C'est un objectif qui a été affiché par le gouvernement, par
Nicolas Hulot, dans la loi.
quand il était ministre de la transition écologique
Nicolas
et solidaire,
Hulot n'est plus là.
Mais il portait la parole du gouvernement à l'époque, dans la même majorité.
Est-ce que ce sera inscrit dans la loi ?
C'est un objectif. Ça n'est pas encore un objectif législatif. Et souvent, on nous reproche de faire des lois, à se désintéresser de l'application. Donc pour moi, la question, ça n'est pas de l'inscrire dans la loi. Pour moi, la question, c'est de travailler avec la filière automobile pour voir si c'est possible, si cette échéance est la bonne, comment cette filière transforme son offre vers des véhicules hybrides, vers des véhicules électriques.
Et la France peut convaincre ses partenaires européens ?
La France a déjà convaincu ses partenaires européens de baisser les émissions carbone des voitures de presque 40% d'ici à 2030. Ça, c'est voté. Pour aller plus loin, il faut changer de type de motorisation. Ça sera un débat, ce sera un débat difficile, mais c'est un débat important, on est prêt à le porter.
Merci à vous Emmanuel Vargon, invité ce matin de France Info. Dans deux minutes, il sera 9h.